Bonjour, je m'appelle Hugo Prévost. Bienvenue à un nouvel épisode de Pixels et Préjugés. Ça fait longtemps qu'on s'est parlé, chers auditeurs. Bon, il y a eu cette longue pause hivernale pour toutes sortes de raisons. Mais on se retrouve, on est maintenant en avril 2024 et je serais content donc, de vous parler à nouveau. On a avec nous un nouveau collaborateur, Patrick Robert. Salut Patrick.
Hey, salut, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui.
Écoute, pour les gens qui lisent pieuvre.ca, bien évidemment, ton nom n'est pas un nom inconnu, bien au contraire, ça fait de plusieurs années que tu fais partie de l'équipe.
Ouais, plus qu'une décennie.
Voilà, effectivement. Écoute, ça ne rajeunit pas personne. mon père me disait récemment qu'on s'approchait de la vingtaine d'années de collaboration. Puis je me disais, mon Dieu, voilà, ça date pas d'hier. Toi aussi, c'est ça, plus qu'une décennie. Là, tu te spécialises. Bon, tu parles de jeux vidéo. Tu parles de BD très très souvent. Tu fais aussi des critiques de films. Tu fais des critiques de séries télé. Bon, tout ça. Dans le culturel, mais aussi, c'est ça, le jeu vidéo. On se parle aujourd'hui parce qu'on va parler de Helldivers 2, qui est un jeu de tir à la troisième personne, jeu de tir solo, mais surtout conçu comme étant collaboratif. On en parle parce que toi, tu le testes sur PlayStation. Avec nous, on a aussi Louis-Gabriel Parent-Bézil, évidemment un habitué du podcast. Allô, Louis-Gabriel.
Qui faisait des faces tristes depuis environ 5 secondes parce que tu parlais pas encore de lui une minute après le début de l'enregistrement. Allô, Hugo, je suis prêt avec toi à défendre le scrutin plurinominal à deux tours et toutes les autres belles valeurs démocrates de Helldivers 2 ce soir.
Effectivement, bon, démocratie, c'est parce que, bon, évidemment, on va vous parler du contexte du jeu comme tel. Il y a un petit côté très humoristique à la chose et très, disons, ça prend une bonne dose de cynisme et de sarcasme dans ce jeu-là.
Surtout d'humour.
Voilà, surtout d'humour, mais il y a quand même quelque chose derrière ça qui est assez intéressant à regarder. Mais c'est ça, toi et moi, Louis-Gabriel, on joue sur PC. On a joué un peu ensemble, d'ailleurs, je pense qu'on a passé deux heures, un peu plus que deux heures ensemble à essayer de, justement, défendre la démocratie.
Ah oui, nos toutes premières heures, fait que on s'entend que c'était d'une élégance remarquable. Je pense qu'on a réussi à pas trop s'entretuer, parce que il y a du tir à mi, mais je regardais ça justement dans mes statistiques tantôt ce soir, j'ai joué une petite partie. Je suis rendu à plus de 1,5 000 tués, mais juste 2 alliés. Hein, on peut être fier de soi. Il y en a qui n'ont pas cette moyenne-là. Je pense à un de mes amis qui aime bien jouer avec des mines, des grenades incendiaires et un lance-flammes. Et peut-être un petit mortier juste pour en rajouter une couche. Lui, il est moins populaire.
Voilà, c'est ça. Avant qu'on se plonge, avant qu'on donne notre avis sur ce jeu, puis qu'on parle un peu de ce que ça évoque chez nous quand justement on tue des bébites ou des robots par centaines, juste expliquer un peu, bon, Helldivers 2, comme le nom dit, ben, c'est le deuxième de la série Helldivers, c'est développé par Arrowhead Game Studios, c'est le même studio qui est responsable de Magicka. Les plus vieux d'entre nous s'en souviendront, mais c'est quand même juste un jeu de 2011. C'est pas Pong quand même. Mais bref, Magicka, donc un jeu d'action d'aventure qui était sorti en 2011. Ils ont fait aussi de Showdown Effect auquel je n'ai pas joué.
Magicka, c'était quand même bien fait comme jeu. Tu sais, ça avait déjà quand même fait une certaine crédibilité.
Oui, absolument. Et se sont tournés, ben en fait, avec les années, ont élargi leur offre parce que, bon, Magicka, Showdown Effect, c'était seulement sur PC, je pense aussi sur macOS. Mais là, avec les années, sont allés aussi du côté des consoles.
Oui, mais je pense que le premier Helldivers était seulement sur console. C'était une exclusivité PS4, si je ne m'abuse. C'était un de mes plaisirs coupables. Dès que j'ai eu une PS4, c'était comme un genre de... C'était à la fois la même chose et très différent pour un élément assez vital. C'est que c'était présenté avec une vue isométrique au-dessus de l'action. Mm-hmm. Donc, c'était plus proche d'un twin-stick shooter, mais c'était exactement le même concept, les mêmes stratagèmes. C'était sensiblement le même jeu, mais le fait de l'amener en jeu de tir à la troisième personne, ça donne vraiment une autre dimension à l'expérience.
Ben oui, parce qu'on pourrait élaborer un petit peu plus tard, mais c'est beaucoup plus cinématographique que ce qu'on avait à l'époque. Justement, je pense qu'il y a un des points qui vont ressortir aujourd'hui. Le caractère cinématographique, vraiment, t'es dans la facture visuelle. Peut-être gardons ça pour plus tard, ne vendons pas trop la mèche, mais je peux déjà dire que ça va être un point clé de notre appréciation du titre, là.
Oui, absolument. Mais justement, Patrick, parlons-en de cette expérience-là avec le premier jeu. Tu dis, bon, c'est un plaisir coupable. Pourquoi coupable exactement?
Ben parce que c'est pas une exclusivité PlayStation comme The Last of Us ou Spider-Man. C'est pas un titre qui a autant de renommée. Mais moi, personnellement, dès que j'étais un joueur, surtout sur Xbox, dès que j'ai eu une PlayStation 4, c'est un des premiers jeux que je me suis procuré parce qu'il était seulement sur cette console-là. Et c'était des sessions un peu plus rapides. Après avoir joué 2-3 heures à un gros jeu, on se rinçait le palais avec une petite partie de Helldivers.
Ben justement, bon, tu dis exclusivité, ça a éventuellement été porté sur Windows. D'ailleurs, je pense que j'en ai une copie quelque part, là, du genre de choses que tu achètes dans un bundle éventuellement ou que ça vient, bon, quelques dollars seulement après quelques années. Je pense pas que j'ai jamais joué, par contre. Mais j'ai vu des let's play, j'ai vu des gens jouer un peu à ça. Effectivement, concept est relativement le même, c'est-à-dire qu'on arrive sur une planète et là, il faut accomplir un certain objectif. Ça peut être de protéger une installation, ça peut être de détruire un nid de grosses bébites. Éventuellement, ça devient, bon, ça peut devenir assez chaotique. Et le plaisir, une bonne partie du plaisir, c'est de jouer en groupe. Là. On peut jouer avec, je pense, est-ce qu'on pouvait jouer seul, Helldivers 1?
Ben, c'est un peu le même principe que le 2. Tu peux jouer seul, mais le jeu est vraiment conçu pour être joué à 4 personnes. Donc, seul, c'est beaucoup plus difficile. Tu vas te faire tuer beaucoup plus souvent. Et même en plus, je pense, dans Helldivers 2, le jeu accorde plus d'expérience, de XP, quand tu joues à plusieurs.
Ben, en fait, sautons à pieds joints dans le 2. J'aimerais ça vous poser la question d'abord. Est-ce que vous pensez que ce jeu-là pourrait exister si Starship Troopers n'existait pas? Je sais pas, peut-être Louis-Gabriel, si t'as envie de te lancer.
Ah, ben écoute, moi j'ai envie de te dire oui, mais il y a des monstres qui auraient pas le même design que celui qu'ils ont. Parce qu'ultimement, oui, il y a une grosse couche de Starship Troopers dans l'humour qu'on mentionnait. C'est vraiment des blagues de « on va aller défendre la démocratie ». Puis des fois, tu dis ça en lançant un airstrike sur un groupe de monstres, ça n'a rien à voir, c'est juste pas du tout pertinent. Des fois, je me souviens qu'on avait joué ensemble la première fois, on avait trouvé une espèce de lumière dans un camp avec une petite description qui pouvait afficher. Ça la décrivait comme tyrannique juste parce que c'était celle de la faction des robots. Mais tu sais, je veux dire, on s'entend, elle n'a pas de volonté, c'est un spotlight. Ouais. Vraiment, l'humour très on beurre plus épais qu'épais sur l'espèce de mentalité de républicain américain militariste au bout. Fait que oui, ça, ce serait peut-être un peu différent, mais encore, il n'y a pas que Starship Troopers que ça. Fait que peut-être que ça aurait été là quand même. Puis oui, c'est sûr que les Terminids, qui sont, bon, un des deux groupes d'ennemis principaux, sont vraiment, vraiment similaires aux aliens de Starship Troopers. Donc, effectivement, eux, je pense pas qu'on les aurait dans le jeu s'il n'y avait pas eu le film. Fait que, tu sais, dans le style, c'est sûr que ce serait pas pareil. Mais les mécaniques de base, à voir après ça si le jeu, son créateur et ses créateurs ont vraiment été directement inspirés, ils ont regardé le film à un moment donné, puis faut faire un jeu avec ça. Mm-hmm. Mais tu sais, il y a des influences de Warhammer, il y a des influences de Star Wars qu'on détecte assez facilement dans le design aussi. Donc après ça, est-ce que ça existerait quand même? Ben j'espère que oui en tout cas. Mais ce serait une petite touche moins adorable.
Mais j'ai quand même l'impression que le ton, le commentaire social sur une société fasciste et militaire est directement emprunté à Verhoeven, au-delà des grosses bébites qui peuvent ressembler. Ce qui faisait le charme, justement, du film de Verhoeven, c'était le commentaire social qu'il y a dans plusieurs de ses films, comme Robocop aussi. Et je pense que c'est ça qui fait que, non seulement il y a beaucoup de plaisir dans le jeu, mais qu'il y a une grosse communauté qui a embarqué dans cette espèce de délire-là et dans ce ton-là de propager la démocratie une balle à la fois. Ça, je pense que ça vient directement de Verhoeven.
Oui, effectivement, comme je le disais aussi dans le ton, là, on peut s'imaginer que peut-être il serait allé dans un sens similaire, sait-on jamais, mais c'est indissociable quand même dans les faits. Là, on peut laisser la chance au coureur, le bénéfice du doute, mais l'influence est colossale, là, effectivement.
Oui, puis ce qui est particulier... Bon, même la séquence d'introduction, c'est vrai, ça me rappelait un peu les bulletins télé dans Starship Troopers, dans le film, surtout, comme ouais. tu disais, Patrick, de film de Verhoeven. Et là, c'est ça, avec cette idée-là de « Ah oui, l'espèce humaine fait rien de mal, puis on fait seulement se défendre, puis bon, faut rappeler que dans Starship Troopers, finalement, la guerre entre les arachnides, les bibites et les humains, on comprend que c'est pas mal les humains qui ont poussé pour la déclencher, pour avoir quelque chose à faire avec leurs soldats, pour envoyer du monde au casse-pied, pour justifier l'existence de leur société. Et on a un peu l'impression aussi que c'est ça un peu dans le cas de la démocratie, comment ils appellent ça, la démocratie dirigée, quelque chose comme ça?
Démocratie contrôlée, je pense. Ouais, je pense que c'est la démocratie contrôlée. Mais tu sais, on remarquera aussi un peu comme dans Starship Troopers, il n'y a pas de bataille justement qui se passe sur Terre. On la voit pas, la Terre, ni dans l'un, ni dans l'autre. Ça se passe toujours chez les autres dangereux envahisseurs, mais bien loin de chez vous, tu sais.
Voilà, exactement. Mais c'est ça, tu disais, bon, on répand la démocratie une balle à la fois. Il y a littéralement une déclaration à un moment donné qui dit dans Eldivers 2, oubliez pas, soldats, vous votez deux fois. D'abord, quand vous allez dans le bureau de scrutin, et ensuite, à chaque balle que vous tirez de votre fusil. J'étais comme, et je trouve ça intéressant. Tu disais, Patrick, les gens ont beaucoup embarqué. Et je pense, en tout cas, j'ose espérer que les gens comprennent que c'est de deuxième degré. Parce que quand le film de Verhoeven était sorti, c'était pas certain que les gens comprenaient que c'était vraiment, fallait prendre ça au deuxième degré puis que c'était une parodie. Là, j'ai l'impression que c'est un peu plus clair. C'est tellement excessif que...
Au volume de mimes qu'il y a dans la communauté aussi, qui est absolument fabuleuse de ce côté-là, c'est dur de passer à côté du second degré parce que on te bombarde littéralement à coups de airstrikes de mimes sur les trucs que tu fais dans le jeu. Fait que, tu sais, c'est à peu près impossible à prendre au sérieux.
C'est particulier aussi parce que souvent... Une bonne histoire peut faire un bon jeu vidéo, mais dans ce cas-là, l'histoire est à peu près inexistante. Il y a un contexte qui est fort agréable et qui permet tout le reste de l'expérience du jeu, mais l'histoire est vraiment mince.
Il y a une campagne qui évolue d'ailleurs au fil des batailles faites par les joueurs, ce qui peut peut-être créer un sentiment d'engagement dans un pseudo-scénario, si on veut. Mais c'est ça, je dirais un pseudo-scénario parce qu'ultimement, tu sais, comme mettons, on nous dit « Ah, les robots sont vaincus. » Bon, mais le lendemain, il y a encore des robots dans le jeu, là, tu sais, c'est...
c'est quand... Ouais, finalement, ils nous expliquent que c'était juste une avant-garde.
Ben oui, voilà, c'est ça. Fait que, il y a tout le temps moyen, tu sais, de se concentrer sur le fun avant de se concentrer sur l'histoire dans Eldivers.
Et je pense que la façon dont c'est dont le jeu structuré, c'est que c'est vraiment un jeu articulé autour. Tu sais, tu parlais, Patrick, de l'importance de jouer en groupe, puis surtout de jouer avec des amis, parce que bon, j'ai pas essayé de jouer avec des inconnus. Toi et moi, le Gabriel, on a joué avec quelqu'un que moi je ne connaissais pas, mais que toi tu connaissais, un de tes amis qui était déjà d'ailleurs bien avancé dans le jeu. Plus que nous. Et mais je me verrais pas jouer avec des gens avec qui je peux pas parler, par exemple au micro, ou avec qui je peux pas coordonner mes mouvements, parce que vu qu'il y a pas de structure scénaristique vraiment apparente, plutôt que outre le fait de tuer la bébite ou tuer le robot puis conquérir l'avant-poste ou défend le truc, bon. Donc, je verrais, on perdrait un peu la magie de cette idée-là de plaisir, même, si on enlève ce côté-là de collaboration ou de finalement de, tu fais des niaiseries un peu avec tes amis parce que là, tu dis, va-t'en par là-bas, puis finalement, tu lances une frappe aérienne sur la tête. Excuse-moi.
Même avec des étrangers, moi, sur la PlayStation, je joue beaucoup avec des gens que je connais pas. Ouais. Certains parlent, d'autres parlent pas. Et même là, le but commun réussit quand même à apporter la collaboration entre les joueurs, assez facilement.
Mais est-ce que d'ailleurs, tu trouves ça...
J'ai le même constat. Oui, ben ça, j'allais dire que j'ai le même constat parce que tu mentionnais justement qu'il y a des objectifs. T'sais, on joue beaucoup par objectif. Le but, c'est pas de tuer le plus d'ennemis possible. C'est vraiment de faire, OK, par exemple, là, il y a des scientifiques, par exemple, coincés quelque part, là, faut les évacuer. Fait qu'il y en a un qui va aller ouvrir une porte. Fait que là, pendant que lui va ouvrir la porte, ben, les autres à côté, ils sont pas complètement fous, ils comprennent l'objectif. Fait qu'ils vont aller se mettre de bord en bord, puis ils vont couvrir. Quand, mettons, faut faire l'évacuation à la fin de chaque mission, tous les joueurs se déploient, lâche les tourelles, soit qu'il lui nomme une à droite, je vais en mettre une à gauche. Il n'y a pas toujours besoin de communiquer très activement quand tu portes un minimum attention à ce que les autres font. Puis oui, des fois, ça peut partir un peu chacun de son bord pour faire des objectifs secondaires. Mais en même temps, quand tout le monde est à la même place, souvent, pas trop dur de faire, OK, ben c'est ça qu'on veut faire comme objectif, ben lui il fait déjà ça, moi je vais faire ça.
J'aimerais que vous entendre sur la question des stratagèmes. Dans le jeu, les stratagèmes, c'est des habilités spécifiques que tu peux déclencher après un certain dans un certain intervalle de temps. Ça peut être justement une frappe aérienne, de faire atterrir des munitions. Tu peux te commander un robot guerrier, je le disais par la poste, mais justement, c'est toujours à partir de ton vaisseau qui est en orbite. Et ces stratagèmes-là, plutôt que juste d'aller dans un menu ou d'aller comme dans, par exemple, World of Warcraft ou peu importe le RPG comme ça, où tu fais juste appuyer sur un bouton ou tu as une macro. Là, oui, c'est vraiment... Tu as des combinaisons de touches.
Une série, ouais, de faire flèche du bas, flèche du haut, haut, en haut, en bas, à gauche, à droite. Puis ça, c'est drôle. C'était exactement comme ça dans le jeu original. Puis je suis surpris qu'il l'ait conservé parce qu'il y aurait peut-être une façon de le rendre plus simple, surtout que pour chaque mission, t'équipes quoi? Je pense que tu peux équiper jusqu'à 4 stratagèmes. Mm-hmm. Mais en même temps, ça fait partie du charme, cette espèce de façon alambiquée de commander justement tes stratagèmes à partir de ton vaisseau qui est en orbite puis qui te largue ça sur la planète.
Ah oui, parce que dès que tu paniques un peu, là, tu fais « Oh, j'ai fait flèche de gauche au lieu de flèche du bas, voilà. Je recommence. » Fait que là, mon airstrike arrive moins vite. Puis moi, d'ailleurs, j'ai un petit trip que j'aimerais faire à un moment donné. J'ai vu quelqu'un qui avait notamment comme fait une espèce de pad tactile imitant ceux des personnages dans le jeu. Là, je serais pas prêt à avoir ça, mais ayant déjà vu quelqu'un jouer à Elden Ring avec un tapis de Dance Dance Revolution, comme c'est des flèches, j'aimerais vraiment ça jouer avec les pieds pour mes stratagèmes avec un tapis de Dance Dance à un moment donné. Hugo, je sais pas si tu peux me patenter ça dans ton atelier de geek, mais ce serait franchement le fun d'avoir juste ça à tes pieds puis de faire le stratagème avec tes orteils.
Mais c'est drôle, pendant que tu disais, bon, c'est un peu alambiqué, mais c'est ça, ça fait partie, t'es comme tu disais toi aussi, Gabriel, quand t'es sous pression, puis même quand toi puis moi, un jour, on était deux, et là, mais il se passe quelque chose, la bébite nous court après, et là, je dis, OK, il faut que je te fasse, toi, t'as été tué par une autre affaire, il faut que je te fasse revenir, fait que là, j'essaie de te commander, finalement, à partir du vaisseau en orbite, pour que... En plus, tu décides d'essayer d'atterrir sur le monstre qui me court après, parce que ça aussi, c'est possible dans le jeu.
Ouais.
Donc, il y a vraiment ce côté-là.
Rempli un de nos objectifs, hein, comme ça, si tu te souviens, j'avais réussi à te poser exactement sur un des gros monstres qu'il fallait tuer pour l'objectif, puis tu l'avais juste éclaté. C'était bien le fun.
Mais, on disait, bon, côté scénario, il n'y a pas énormément de choses, mais c'est ces petits côtés-là de justement l'imprévu, que ce
la
soit...
La beauté du chaos.
Voilà, exactement. Et je pense que... parce que on va pas se le cacher, quand Eldivers 2 était lancé, il y avait beaucoup de problèmes de serveur. Voilà,
c'était injouable.
Voilà, c'est ça. Ben Patrick a fait, pour les gens qui évidemment qui voient pas en tant que podcast, mais Patrick a fait une phase de, oui, effectivement. Mais c'est ça, tu disais, c'était injouable. Puis c'était un peu ça aussi, le gag de... Tu passais plus de temps... être dans le menu de connexion qu'à jouer.
Mais ça, je pense que c'est parce que ça les a pris par surprise. Ouais. Ils s'attendaient pas à connaître un tel succès. Comme je dis, somme toute, le premier Eldivers était quand même un jeu pas si connu que ça.
Ouais.
Donc, je pense qu'ils ont vraiment été pris de court. Et ce qui est tout à leur avantage, c'est qu'ils ont travaillé. À chaque jour, il y avait des mises à jour. Ils augmentaient le nombre de serveurs. Et je pense qu'en à peu près 7 à 10 jours, ça a été réglé.
Mais il y avait quand même... Moi, quand j'ai la première fois que j'ai joué, il a fallu que je fouille parce que tout ce que j'avais, c'était un message d'erreur me disant « Impossible de connecter au serveur. » Je faisais « Escape », ça m'amène le même message. Il fallait que je fasse... Que je force la fermeture du programme avec Alt F4 pour ensuite essayer de le relancer. Il a fallu que je vide ma cache de DNS sur Windows. Ça arrive pratiquement jamais, ça.
Toi, t'es un peu maudit avec comme tous tes jeux vidéo, Hugo.
Ouais. Non, mais c'est juste que j'étais pas le seul à avoir ce problème-là, parce que clairement, j'ai trouvé une solution, quelqu'un avait fait une liste de solutions qui avait mis ça sur Internet, mais là, je me disais, OK, j'avais vu qu'il y avait eu des gros problèmes, et je me disais, bon, nous autres, on a joué, ça faisait déjà... plusieurs semaines, plusieurs mois, même que le jeu avait été lancé. Puis on se dit, OK, ça va être corrigé, puis tout ça, puis il n'y aura pas de problème. Puis là, la première affaire que je vois, c'est ça. Puis je me dis, Colin, c'est parce que c'est à quel point, oui, c'est populaire, mais là, à quel point que ça donne un message d'erreur cryptique, je l'ai jamais revu, ce message-là. Une fois que j'ai vidé ma cache de DNS, c'était correct. Mais quand est-ce qu'un jeu te force à vider ta cache de DNS sur ordinateur? Donc, je me disais, bon, ça va-tu vraiment ce genre de choses-là? On va essayer de rentrer dans le jeu, puis là, ça marche pas. Puis finalement, ça fonctionnait très bien ensuite, mais disons que ça m'a mis un peu sur mes gardes en partant, en disant, ça va-tu être une expérience un peu...
On voit ça avec tellement de jeux qui sont exclusivement en ligne. Si on se rappelle tous de Diablo 3, mais tu sais, ouais. Dragon's Dogma aussi qui vient de sortir, ça a été une des critiques phares contre le jeu aussi. Bon, il y avait aussi des histoires de microtransactions pour certains petits trucs, mais c'est ça. Là, en même temps, vu que c'est un jeu qui se veut tellement collaboratif, je pense qu'on peut un peu plus comprendre justement que des jeux solo avec la fonction en ligne seulement, tu sais, alors que là, c'est un jeu que tu peux jouer solo, mais que c'est vraiment pas l'expérience totale, c'est pas développé pour le solo. Fait qu'au moins, tu sais, dans ce contexte-là, je peux quand même mieux comprendre pourquoi, tu sais, c'est en ligne seulement, mais c'est sûr que quand t'as des problèmes de serveur ou de connexion après ça, c'est moins drôle.
Surtout, je pense que sur Steam, il est pas rare d'avoir jusqu'à 400 000 joueurs, là, en ouais. même temps, donc... Mm-hmm. C'est un peu normal aussi, là. Oui. Il y a vraiment beaucoup de monde.
Oui, mais c'est juste que, bon, ce genre de message, tu sais, c'est un peu comme quand tu essaies d'effacer un fichier dans Windows, tu veux l'envoyer dans la corbeille, puis ça te dit, oh non, ce fichier est en utilisation quelque part. Mm. Et je veux dire, c'est un message d'erreur qui est là depuis les débuts de Windows, ou même avant ça, ça fait 30, 40 ans que c'est là. Puis là, il y a pas encore personne qui a pensé programmer la fonction, toute petite affaire de plus en disant où est-ce qu'il est ouvert ce mm-hmm. fichier-là. Donc, c'est le genre de choses que, OK, problème de connexion, c'est pas genre, OK, le serveur répond pas ou erreur de DNS ou quoi que ce soit. Non, c'est problème de connexion, puis tu peux même pas sortir de ce message-là. Tu te fais escape, là, j'étais comme, ah mon Dieu.
Ça prendrait un pop-up, vide ta cache.
Okay. Ben, tu sais, c'est parce que, on veut dire, moi, à la limite, j'avais pas trop de quoi me plaindre parce qu'on m'a offert un code. J'ai mes amis qui travaillent pour une compagnie qui appartient à Sony, donc cette personne-là reçoit tous les grands jeux que Sony, parce que Sony, c'est l'éditeur dans ce cas-ci, tous les jeux publiés par Sony, ben lui, il y a un code PlayStation, puis un code pour, quand le jeu est sur PC aussi, il y a un code pour PC. Donc, à la limite, je me dis, je ne perds pas d'argent, mais je me dis, pour les gens, pour les autres personnes,
Sur console, c'était pas jouable pendant presque 10 jours. Tu sais, tu pouvais passer là 1 heure, 2 heures à essayer de te connecter. Impossible de se connecter au serveur. Quand tu réussissais à te connecter, il y avait pas de matchmaking, ça fonctionnait ouais. pas. C'était vraiment injouable. Puis bon, au moins le jeu se vend une 40aine de piastres au lieu ouais. d'être 80. Mm-hmm. Donc c'est un peu moins pire, mais en même temps, tu payes pour un jeu qui est auquel il est impossible de jouer. C'est sûr que c'est frustrant, mais au moins, on n'est plus là aujourd'hui.
Non, heureusement, effectivement. J'aimerais ça vous poser la question, puis on va commencer avec toi, Patrick, là-dessus. Là, pour l'instant, le jeu, c'est ça, plusieurs centaines de milliers de personnes jouent en même temps. On a beaucoup de fun, c'est intéressant, il y a de la progression. Bon, évidemment, il y a un peu, en bon français, du grind, parce que c'est un jeu aussi qui veut que tu fasses des microtransactions. C'est pas mis dans ta face trop, mais c'est là pareil.
Quoi que ce que tu peux débloquer sans les microtransactions est très bien. Comme, oui. Par exemple, je pense que le meilleur fusil à pompe du jeu, en fait, il est pas à pompe, mais le meilleur shotgun du jeu, c'est un shotgun semi-automatique que tu débloques au niveau 5, 6 ou 7, mm-hmm. puis qui va super bien. Il y a beaucoup de stocks vraiment efficaces que tu débloques tôt. Puis t'es d'autres choses que bon, tu débloques peut-être un petit peu plus tard, comme le bouclier, par exemple, qui est cool, ouais. mais qui est au niveau 20, mais t'es que t'as pas besoin de payer. Tu peux toujours aller avec les microtransactions, mais tu peux aussi gagner des crédits en faisant les missions, puis acheter le Season Pass avec des crédits dans le jeu. Fait que, mais, optionnel.
Oui. La question que je voulais vous poser, c'est parce qu'on disait tout à l'heure. Il n'y a pas vraiment de progression scénaristique. Ça reste surtout, bon, tu t'en vas quelque part, tu as une mission qui peut être intéressante, mais le plaisir vient surtout des interactions entre tes partenaires et avec les ennemis. Est-ce que, dans ton esprit, Patrick, est-ce que tu sens que tu jouerais à ce jeu-là encore pendant 6 mois, pendant 1 an? Ou est-ce que tu dis éventuellement, ça devient un peu redondant, puis je vais passer à autre chose?
Ben, ce qui est intéressant, c'est le monde persistant qui est partagé par tous les joueurs. Mm-hmm. Souvent, donc, on voit, après une mission, notre participation à l'effort de guerre, précisément, et Aussi, ce qui est encore plus intéressant, c'est que pour l'instant, le développeur rajoute beaucoup de contenu. Il y a des missions spéciales où ce qui demande à la communauté d'accomplir une action pour débloquer quelque chose, comme par exemple l'offensive contre les automatons qui a débloqué les gros mecs qu'on pouvait utiliser. Ça, tous les joueurs ont collaboré, ont participé par équipe de quatre pour atteindre ce but-là. Et si les développeurs continuent à ajouter ce genre de mission-là, comme par exemple dans le premier Helldivers, il y avait non pas deux races, mais trois. Il y avait aussi les Illuministes, qu'on n'a pas vu encore dans Helldivers 2, et je suis pas mal persuadé que c'est une troisième race que les développeurs gardent dans leur manche pour peut-être dans deux semaines, dans un mois. Donc, pour moi, ça va dépendre de ça. Ça va dépendre de la façon dont le développeur continue à garder, à ajouter des missions, des défis précis pour la communauté. C'est ça qui va faire que le jeu va continuer d'être vivant. Mais déjà, c'est bon signe. Après, je pense, deux mois après le lancement, y a aucun signe de ralentissement. Là. Les gens ont toujours le même engouement qu'au début.
Toi, Louis, pas mal dans le même sens. Puis, on parlait justement de du côté le fun de la communauté, qui est vraiment tout le temps en train de faire des mimes, de déconner, tout ça, qui vient justement rajouter à l'expérience collective. Je disais d'ailleurs un petit texte tantôt de quelqu'un qui disait qu'il pensait convaincre plein d'amis comme normaux, entre guillemets, de se mettre à jouer à Donjons et à Dragons et à d'autres trucs roleplay, parce qu'il avait commencé à les mettre dans la loupe des espèces de saluts militaires puis de calls de démocratie. Puis il disait, ah non, qu'ils touchent au roleplay, là, pour la première fois, ils font du roleplay avec quelque chose, puis ils ont du fun. Fait que c'est un peu comme si c'était leur gateway, excusez l'anglicisme, là, mais...
La porte d'entrée, effectivement.
Oui, effectivement, il y a ça. Il y a quand même le fait qu'on en parlait tantôt avec les objectifs de mission, mais aussi avec les environnements dans les planètes, il y a une diversité qui fait que tu n'as pas tout le temps l'impression d'être dans le même champ de bataille. Mm-hmm. Sur une même planète, tu peux être dans des montagnes enneigées ou dans une espèce de plaine avec de la végétation rouge, par exemple. Ça va vraiment changer d'air. Puis des fois, tu vas avoir aussi des espèces de phénomènes climatiques aussi qui vont venir changer complètement la dynamique visuelle.
Pas juste visuelle, des fois, tornades de feu.
C'est exactement ce à quoi je pensais après l'avoir dit. Quand il y a des tornades de feu partout autour de toi, puis il faut que tu te piches d'un bord puis de l'autre pour trouver ton chemin,
ça change la dynamique.
Mais tu sais, même quand c'est, par exemple, juste, des fois, il y a une espèce de brouillard, une espèce de brume, puis là, t'as comme le soleil à travers, fait que t'es dans une espèce de fog of war doré, tu vois à peu près rien, sauf des lasers, des explosions, c'est tellement, justement, t'es cinématographique dans l'expérience que tu joues peut-être pas pour le scénario, mais tu joues pour les moments. Mm-hmm. Les moments, il va tout le temps en avoir. C'est un peu comme quand, mettons, surtout si tu joues avec ton groupe d'amis, un peu comme quand t'as le rituel d'aller chez tes chums pour écouter des games du Canadien, pis que bon, tu sais, ça se colle la pizza ou peu importe, mais tu sais, ça s'en va écouter les games. Tu sais, ça va pas avoir un scénario de la saison, mais ça va faire « Hey, le tour du chapeau de Slavkovski l'autre fois, yeah, man, il est bon, il va faire 20 buts cette année. » Tu sais, ça, l'affaire, c'est quand c'est des moments super agréables puis qui trouvent, en plus c'est du plaisir en soi, le côté visuellement comme tellement spectaculaire du jeu, puis les bombardements ils contribuent pour beaucoup d'ailleurs, puis tu sais, c'est il y a pas beaucoup de jeux qui te laissent à la fois bombarder des choses tout en ayant une vue aussi agréable et épique de la patente, tu sais, comme tantôt, dans une mission que j'ai fait, on a fait décoller un missile qu'on faisait sortir d'un silo. Quelques secondes après, il tombait sur une base. Là, tu voyais le champignon, puis t'entendais un peu l'explosion, mais après ça, t'avais l'autre onde qui passait, puis là, ça vibrait un peu, t'entendais l'onde. T'as rarement ça dans les espèces de jeux qui te laissent justement d'habitude tout péter, qui sont souvent, mettons, des RTS ou des jeux avec, c'est ça, une vue isométrique, par exemple. Là, t'es en plein dedans. Fait qu'il se passe tout le temps des choses différentes d'une mission à l'autre, puis il se passe vraiment souvent des choses spectaculaires. Ça fait qu'au final, tu vas sortir de là en te faisant « Wow, c'était, j'ai eu mes rushs d'hormones, là, d'adrénaline, puis ça, j'ai eu. » Fait après ça, que t'aies une histoire ou pas, en même temps, quand justement t'as une histoire, une fois que t'as fini l'histoire, ben à quoi ça sert de rejouer? Prenons, mettons, l'exemple de Diablo 4, qui est pas déplaisant une fois que t'as fini la campagne, mais qui perd vraiment de son charme, parce que là, tu commences à faire beaucoup plus de grind pour aller un peu améliorer ton armure, un peu améliorer tes armes. Mais, tu sais, avant ça, t'as la campagne qui va te mener quelque part. Là, t'as une espèce de campagne éternelle, qui est peut-être comme, oui, moins engageante un peu au niveau scénaristique, mais comme elle a pas de fin, ben, c'est pas fini. C'est jamais fini. C'est comme la liberté puis la démocratie. C'est un combat de toujours.
Voilà. Ça, c'est une grosse amélioration qu'ils ont faite parce que dans le premier Helldivers, les campagnes avaient une durée limitée. Mm-hmm. Donc, c'était peut-être 100 jours la guerre intergalactique. Puis après ça, ils leur partaient à zéro. Mm. Puis là, ils ont choisi un autre chemin de faire vraiment une guerre permanente en rajoutant des secteurs, en rajoutant des planètes, en rajoutant des objectifs, justement pour faire une guerre sans fin. Ça, je pense que c'était une bonne idée plutôt que d'avoir une campagne limitée dans le temps.
Tout à fait.
En tout cas, si j'avais pas déjà le jeu, ben je serais convaincu. Bon, j'ai déjà ma clé. Donc, bon, évidemment, j'en déduis que vous recommandez, évidemment, Helldivers 2.
Oh oui, assez facilement. Surtout que, comme on le disait, pour le prix, on en a quand même pas mal pour notre argent.
Oui.
T'sais, à 90$, c'est toujours une question à se poser, mais là, pour la moitié.
À 40. Puis voilà. En plus, je pense que le développeur s'est aussi engagé à ce que tout le contenu additionnel, t'auras pas besoin de payer. Là. Mm-hmm. C'est inclus dans le prix d'entrée de base. Et ça, ça fait du bien parce que les jeux de type live service ont assez mauvaise réputation. Suicide Squad Kills the Justice League, ou moins un qui m'enrageait, c'est Destiny 2. Mm-hmm. Qu'à toutes les fois qu'ils sortent une nouvelle expansion... si tu l'achètes pas, t'es barré en arrière d'un mur payant.
Ouais.
Donc, c'est assez chiant comme expérience, mais avec Helldivers, ce genre de problème-là semble pas avoir lieu.
Ben, je suis content de constater que, tu sais, c'est ça, c'est beaucoup de mauvaises nouvelles du côté de l'industrie ces temps-ci, beaucoup de titres qui, justement, tu disais, Patrick, des live services, les compagnies qui disent on va faire de l'argent éternellement en proposant du contenu nouveau à chaque 6 mois ou à chaque X nombre de semaines, puis on se rend compte que, ben c'est ça, t'as pas 50 heures par semaine à mettre là-dessus, parce que t'as d'autres choses à faire, parce que t'as peut-être une famille, parce que, bon, tu vas peut-être faire autre chose que jouer à des jeux vidéo, mon Dieu, scandale, tu sais, on a beau dire, ouais, bon, il n'y a pas nécessairement de campagne, ou en tout cas rien d'extrêmement structuré côté scénario dans le Helldivers 2, c'est aussi un avantage parce que tu peux arriver dans 3 mois puis dire, OK, ça fait 3 mois que j'ai pas joué. Ah, ben là, il y a peut-être une race de plus, mais l'idée reste la même et tu seras pas en retard de 10 DLC ou quoi que ce soit. Je prends un exemple que moi, j'aime beaucoup. C'est un autre style de jeu, mais Hearts of Iron 4, qui est un jeu un 4X, donc jeu stratégie, grande stratégie, et développé par les gens de chez Paradox Interactive qui sont, faut leur donner ça, très à l'affût pour mettre du nouveau contenu puis des nouvelles fonctionnalités. Le problème, c'est quand ils sortent une nouvelle expansion ou un nouveau DLC, ben ils donnent une partie gratuitement. Puis le reste, tu veux toutes tes fonctionnalités, faut que tu l'achètes. Donc, à chaque X mois, faut que tu payes une $15-20 pour avoir accès à toute l'expérience qui, ultimement, peut être intéressante. Sauf que...
Le kit complet vaut combien, là, déjà, en ce moment?
Faut attendre une vente. C'est ça, le problème. C'est que tu dis, bon, là, OK, Helldivers 2, tu dis, Patrick, tout est accessible pour $40 et le restera, en tout cas, pour l'instant.
Oui.
Ben, Hearts of Iron 4, si tu veux te lancer, c'est un autre genre de jeu, encore une fois, mais c'est même avec une vente, ça va être facilement 60, 70, 80$. Et là, il faut apprendre toutes ces mécaniques-là. Dans Helldivers 2, généralement, les mécaniques, c'est tire sur l'ennemi. Des fois, tu plonges par terre, puis regarde donc bien comment ta cape
coule au vent. Tu peux avoir des nouveaux stratagèmes
Ont quand même une valeur tactique importante. Oui. Quand tu as des tourelles, des ci, des ça.
Mais ce que je veux dire, c'est qu'à la base, c'est pointe le bout de ton canon vers le méchant. Tu sais, c'est à peu près... Super.
Mais pour un shooter, justement, tu sais, l'existence de stratagèmes un peu plus complexes vient quand même diversifier l'expérience. Oui. Exact. Parce que moi, justement, c'est une de mes réflexions principales par rapport au jeu, c'est ça fait changement de juste comme, OK, je tire dessus, bang, bang, c'est mort. Une fois de temps en temps, je me mets une grenade. Une fois de temps en temps, j'ai ça. Là, c'est comme, donc, une fois de temps en temps, je regarde, oh, il me reste 30 secondes avant de pouvoir faire telle affaire. Ok, ouais. Là, je vais faire mon petit airstrike. Ah, mon ami proche, c'est pas grave.
Puis, je trouve aussi que de ce temps-ci, parce qu'on parle beaucoup du coût des développements des jeux vidéo AAA qui est rendu en termes de centaines de millions, le temps qu'il faut pour développer ça, les pressions du calendrier qui fait que les jeux sortent buggés, puis il faut attendre 18 mises à jour. je trouve que de plus en plus, les titres plus modestes qu'on pourrait qualifier de double A donnent de plus en plus de leçons aux gros bons de l'industrie avec des expériences qui coûtent moins cher pour le joueur, mais qui remportent plus de succès, autant en termes de mécanique que de popularité.
Mm-hmm. Non, absolument. Puis bon, j'en reviendrai pas sur l'expérience Skull and Bones, mais...
Moi, je pensais que t'allais parler de Pal World qui a fait ça un mois ou deux avant aussi.
Ben, bref, mais c'est ça aussi, tu sais. Je veux dire, tu mentionnais tantôt, Gabriel, visuellement, le Divers 2, t'as toutes sortes d'ambiances, toutes sortes de d'atmosphères, et t'as pas besoin de grand-chose pour que ça soit captivant. Donc... Moi, je suis très heureux de jouer à un double A ou jouer à un jeu indépendant. L'important, c'est d'avoir du fun. C'est pas pour rien que presque une vingtaine d'années plus tard, et Seigneur, ça aussi, ça ne rajeunit pas, Left 4 Dead 2, développé par Valve, ben c'est encore très populaire. C'est pas, évidemment, c'est plus le jeu ultra populaire que ça a déjà été, mais ça, c'est un autre genre de jeu collaboratif, un jeu de tir collaboratif qui fonctionne encore très bien et qui est encore intéressant sur le plan visuel. Bon, ça vieillit, c'est sûr, mais ça prouve que t'as pas besoin d'être à la fine pointe pour avoir du plaisir. Donc, je pense que c'est aussi une grande leçon dans Helldivers 2. C'est un très beau jeu, mais t'as pas besoin que ça soit ray tracing, machin chouette, ton ordi surchauffe. C'est pas important, rendu là. L'important, c'est surtout d'avoir du fun.
Non, il y a moins de planètes que Starfield.
Ouais, puis en même temps, de plus en plus, les jeux essayent d'être toutes en même temps. Je vais être un monde ouvert, je vais rajouter un côté survie, je vais rajouter un côté roguelite, je vais mettre un peu d'éléments d'RPG, je vais mettre un peu... Tu sais, Helldivers 2 fait une chose et le fait très bien.
Voilà.
C'est ça aussi, il faut se concentrer au lieu de s'éparpiller puis d'essayer d'offrir des jeux qui sont des couteaux suisses, des canifs suisses qui essayent de tout faire en même temps, de se concentrer sur une expérience solide qui s'éparpille pas dans toutes les directions.
Ouais. Donc voilà, Helldivers 2, c'est à essayer pour ceux qui, les gens qui aiment l'action et défendre, évidemment, la démocratie. C'est toujours important de défendre la démocratie. C'est sur Windows, c'est sur PlayStation 5. Patrick, merci beaucoup d'avoir été là pour ton premier épisode de Pixel et Préjugés.
Alors, ça me fait plaisir si c'est pour parler d'un titre aussi agréable.
Voilà. Puis Gabriel, évidemment, toujours agréable de te retrouver aussi.
Ben, pareillement.
Et bien sûr, évidemment, ceux qui nous écoutent en ce moment, merci d'être fidèles au rendez-vous, de continuer d'être là pour notre émission. Vous pouvez trouver tous les autres épisodes, y compris notre palmarès des meilleurs jeux de l'année 2023. Donc, tout ça, c'est sur pieuf.ca. On est aussi sur Spotify et Apple Podcasts. Avant de terminer, je vous invite bien sûr à vous abonner à l'infolettre de Pieuf. Ça vous donne accès à l'ensemble des contenus publiés durant la semaine. Donc, les articles, les critiques et évidemment, les épisodes de balado. Et sur ce, je vous dis merci et à bientôt.